Et le titre de cet atelier a été choisi, ce qui est bien normal, par les camarades comoriens. Donc le titre que vous avez vu, c'est Les nouveaux habits du colonialisme français, le cas de l'île comorienne de Mayotte. Donc ça pose bien déjà dès le titre la problématique, hein, c'est considéré comme effectivement une île comorienne, Mayotte. Donc je vais vous présenter un peu la tribune, enfin Eddy se présentera, mais Eddy fait partie de la direction du NPA. Moi je m'appelle Roselyne, je milite à Grenoble, et voilà. Et Mabadi, il a trois fonctions importantes, d'après ce qu'il m'a dit. Il est coordinateur du collectif de défense de l'intégrité et de la souveraineté des Comores. Il est membre fondateur de l'organisation néo-panafricaine de souveraineté. Et il est coordinateur général du collectif Stop Ouambouchou à Mayotte. Voilà. C'est à ces différents titres qu'il va intervenir sur l'histoire de Mayotte, les enjeux pour Mayotte et pour l'archipel et le travail anticolonialiste et anti-impérialiste qu'on a tous ensemble à faire dans ce pays. Ces trois fonctions, je trouve que ça donne une idée de ce courant politique, au sens large, au sens noble du mot politique, de ces organisations. À la fois, une action aujourd'hui contre l'État français par rapport à cette opération absolument scandaleuse qui se déroule toujours depuis le 24 avril à Mayotte. Un projet politique sur l'intégrité de l'archipel des Comores en entier et dans une perspective ouverte, le panafricanisme. Donc c'est exactement nos problématiques à nous aussi, agir aujourd'hui, penser un peu plus loin et avoir un projet politique pour aller jusqu'au bout. Du coup, nous, pourquoi au NPA, on a choisi cet atelier? Comme vous avez vu, les ateliers, ils ne manquent pas à l'université d'été. Ce n'était pas pour remplir un trou, hein, au contraire, il n'y a plus de trou. Au NPA, avec beaucoup d'autres associations, syndicats, partis, on s'est mobilisé autant qu'on a pu contre cette opération de Darmanin, qui est une opération, qui est une guerre, hein, contre les pauvres et les pauvres des Comores. C'est une véritable guerre. Et Darmanin, c'est le fer de lance de cette guerre envoyée par Macron, le gouvernement, évidemment. Nos raisons d'agir sont de plusieurs façons, il y a plusieurs types de raisons. La première, c'est bien sûr la solidarité et le soutien jusqu'au bout pour obtenir, pour gagner la décolonisation. Il nous expliquera, Mabadi, comment la situation conflictuelle entre les îles des Comores a été créée de toutes pièces par l'État français, par la colonisation. Et puis, c'est plutôt, du coup, Eddy qui en parlera plus longuement. Ce qui s'expérimente aujourd'hui à Mayotte, c'est déjà ici, dans certains quartiers, c'est les mêmes armes, c'est les mêmes polices d'exception. Et ça, ce qui se passe là-bas, ben, c'est pour tout le monde, hein, évidemment. Mais sauf que là-bas, évidemment, c'est loin, 6 000 km, c'est pas facile la solidarité, et ils se déchaînent particulièrement dans cette île. Nous, on pense que la République dans laquelle on est, elle est policière. Pourquoi on dit ça? Ben, je pense que vous le savez, vous aussi, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que le ministère de la Police, qui est aussi le ministère de l'Intérieur, qui est aussi le ministère des DOM, hein, donc des territoires, des régions ultra-périphériques, comme ils disent maintenant, ce ministre-là, il a quand même les pleins pouvoirs sur les autres institutions de leur République bourgeoise qu'ils avaient eux-mêmes mis en place. Donc aujourd'hui, c'est cassé, leur propre équilibre est cassé, et la police, elle a une place prépondérante. Elle a une place prépondérante qui est d'autant plus dangereuse, comme vous le savez aussi certainement, que plus de 60% des policiers votent extrême droite et que les actions, le discours, les idées, la logique de cette attaque aujourd'hui de police contre tout le monde, c'est des logiques d'extrême droite. Ça vient pas uniquement de Darmanin, évidemment. Les mots, vous savez, les mots, c'est les idées qui se balancent au niveau national et qui se diffusent partout et qui sont mises en œuvre par les différents ministères. Donc on a entendu les riens. Là-bas, on a entendu quand même un vice-président du conseil départemental de Mayotte dire qu'il faudra peut-être en tuer quelques-uns dans une télévision publique et ça n'a pas été réprimé. Pour 1000 fois moins une injure, on se retrouve aujourd'hui en garde à vue, hein, minimum. Si on est racisé, ça va plus loin encore. Les mots, plein de mots, j'en ai pris que deux parce qu'on aurait pu en prendre plein. Plein de mots et puis une orientation. Quand le principal du discours de Macron, il y a quelques jours, c'est de l'ordre, c'est bien entendu comme ça, effectivement. Donc les actes, ils sont à la hauteur. Et Mabadi nous parlera de Mayotte. Ici, tout ce qui se passe, les vraies révoltes, c'est de la faute des parents qui élèvent mal leurs enfants. Et quand on dit parents, dans beaucoup de cas, c'est la mère, les mères qui sont incapables d'être à la hauteur de ce que font, d'élever leurs enfants. Donc c'est pas ça du tout la question. Donc les polices d'exception, elles créent aussi des milices. Ça encourage aux milices, puisqu'on a une police générale, des polices d'exception pour les quartiers ou pour Mayotte, ou pour d'autres départements d'outre-mer, hein, comme on l'a déjà vu souvent, et pour les quartiers populaires. Et ces milices, on a vu dernièrement, pendant les révoltes urbaines, des hommes armés défiler dans des villes moyennes et plutôt tranquilles d'habitude. C'est assez surprenant quand même que ça se passe aussi bien, qu'il n'y ait aucun problème, et que les attaques contre les mosquées, contre les tags, faites par ces milices, elles se passent très bien, protégées par la police. Donc on est dans cette situation-là, où on peut penser qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que les choses basculent. C'est pour ça que cette réunion, pour nous, l'objectif, c'est de s'informer, de se former ensemble, de débattre ensemble, et de voir ce qu'on peut faire pour agir aujourd'hui. Il y a déjà au moins une date dans le paysage qui est le 23 septembre, des manifestations, des rassemblements qu'on est en train de travailler pour qu'ils soient de plus en plus forts contre les violences policières, contre la violence d'État et le racisme d'État. Et puis Darmanin qui va avancer sur sa loi, qui n'a toujours pas été votée mais qui est déjà appliquée, et à nouveau se mobiliser pour que cette loi ne passe pas. C'est pas gagné, mais il va falloir faire tout ça, et le faire avec beaucoup d'autres, parce qu'on aura besoin d'être nombreux. Je vais laisser la parole à Mabadi, et puis après à Eddy. Vas-y.
Oui, donc merci de cette invitation. Bien évidemment, en tant que Comorien sous occupation coloniale depuis plus de 40 ans maintenant, nous sommes toujours heureux, en tout cas les militants qui tiennent cette résistance, nous sommes toujours heureux de venir partager ce souci, parce que l'on ne peut en sortir que par la solidarité, comme disait Roselyne tout à l'heure. Je voudrais dire un mot pour pas que ce soit noyé dans mon propos, et rendre hommage au regretté Alain Krivine, parce que je suis dans les faits politiques depuis mon jeune âge au lycée, et y compris ceux qui m'ont formé dans les organisations étudiantes, et puis plus tard, lorsque on était en résistance contre Bob Denard au pays, ce sont des personnalités politiques qui ont été formées à la trempe d'Alain Krivine. Et d'ailleurs, j'ai un frère qui m'a écrit ce matin pour me rappeler ce qu'il a mis en place à Marseille avec Alain Castan. Donc, ceci étant posé, je voudrais partager avec vous le souci de comprendre le phénomène de la colonisation de Mayotte, mais tout compte fait, c'est une continuité, cette colonisation n'a jamais cessé. Et donc Roselyne m'a invité à apporter quelques éclairages historiques pour comprendre comment les choses se sont mises en place. Donc c'est sera mon premier point. En deuxième point, je voudrais insister sur le fait qu'il y a eu une méthode d'occupation de terrain qui a été expérimentée donc avec succès à Mayotte. Et que, y compris les Outre-mer qui ont la volonté de s'affranchir, et y compris même dans les pays sous domination de ce qu'on appelle la France-Afrique, ce phénomène de la partition des espaces va toujours être brandi sous forme de menace ou dans les faits. J'y reviendrai. Je voudrais également dire quelques mots quand même sur les enjeux de la colonisation. Les gens ne débarquent pas chez les autres comme ça en disant bon ça va, on se sent bien, on reste. Il y a des raisons très profondes liées justement à la volonté impérialiste de dominer les espaces. Voilà, et puis je finirai sur l'actualité comme a présenté Roselyne aujourd'hui, c'est que non seulement on doit se battre contre le fait colonial, il y a différentes dimensions, notamment la dimension du droit international qui est piétinée, dans le cas de Mayotte en tout cas, mais il y a aussi le fait que là-bas, au loin, à 1000 kilomètres, on expérimente des saloperies que l'on va ramener donc ici dans l'Hexagone. Et il y a même un lien avec toute l'Europe en fait. Donc, quand on parle de ce phénomène de milices et ce déni total des droits humains par manipulation des textes ou par sauvagerie brutale, il y a quand même derrière ce qu'on voit venir à partir finalement des orientations de l'Europe, de l'Union européenne, comme vous vous en doutez. Donc mon premier point, donc les informations de type historico-politique. Ça va être un tout petit peu long hein, dans le fait qu'il y a une foule d'informations, mais je voudrais faire l'exercice avec vous pour voir que les choses se mettent en place progressivement et que à un moment donné, on est étonné que ça puisse arriver. On est au XXIe siècle et il y a quand même un endroit où, je veux dire, il n'y a pas que la Palestine qui est sous occupation sauvage, quoi. Donc, pour ce premier point, je commencerai par le début de la présence française à Mayotte. J'irai pas trop loin, mais il faut que je positionne quelques dates que vous allez pouvoir retenir pour confronter en fait ce récit au narratif colonialiste qui nous est asséné encore sur les médias français mainstream qu'on connaît. Pour ceux qui y suivent, ceux et celles qui y suivent ont pu apercevoir peut-être une députée française du nom d'Estelle Youssoufa qui a un langage de haine et en tout cas de mensonges historiques. Elle justifie l'occupation et par ricochet ses intérêts et les intérêts de sa classe dans le fait de dire que les Mahorais, qui est une population partie de la pauvreté, aspire à une meilleure vie en ayant pris l'option de rester dans la France. Eh ben, ces Mahorais maintenant doivent se défendre et développer une haine viscérale contre leurs cousins des îles en face. Sinon, la France risque de les négliger. Donc, on est dans une schizophrénie sans nom. Donc, en 1830, les îles Comores sont, il faut savoir qu'ils sont organisés par Sultanat. Ils sont organisés par Sultanat à cette période-là. C'est la même chose à Madagascar. 1832, un sultan malgache du nom de Andrea Nanzuli se réfugie à Mayotte parce que un autre sultan qui est expansionniste, ben, chassait les autres. Donc voilà, lui, il s'est réfugié à l'île voisine de Mayotte. Et une fois installé, il abuse de la protection dont il a pu bénéficier en renversant le sultan de Mayotte. Il faut savoir que l'organisation sociopolitique de l'époque, c'est que il y a un sultan sur chaque île, il y en a 4 au total, et il y a forcément un qui va superviser les autres, c'est le fameux sultan de l'île d'Anjouan. Donc on est dans un sultanat qui a des codes et des règles, puisque c'est le sultan d'Anjouan qui est reconnu comme ayant, on va dire, l'autorité sur le reste. C'est en quelque sorte le président de tout l'archipel. Eh ben, on ne peut être sultan d'une île voisine, Mayotte, Mouéli ou la Grande Comore, sans être adoubé par ce sultan de Anjouan. Et en 1841, donc Andjian Nansouli, qui a réussi à renverser le sultan de Mayotte de l'époque, ben il rencontre un capitaine, Pierre Passot, et il vend l'île contre 1000 piastres pour les détails, et aussi en échange de la protection de sa famille. Sa famille a été envoyé ses enfants, notamment envoyé à l'île de la Réunion. On le rassure des indemnisations. Bref, il a voulu sauver les intérêts de sa famille. Et on dit que ceci suffit pour que l'île appartienne à l'État français de l'époque. Donc c'est juste grossier. 1843, le sultan d'Anjouan, il s'appelle Salim, écrit une lettre qu'il envoie donc au roi de, c'était une reine à l'époque, qui avait envoyé donc le colonel Passot en exploration. Il lui dit: ok, je dénonce cet état d'occupation de mon île, cette île pour moi reste toujours sous mon autorité. Donc 1843, la présence française à Mayotte était déjà dénoncée dans les faits, et depuis cette date, cette présence par la force, c'est juste le droit de la force qui y opère. Maintenant, il y a eu quand même sur le parcours le fait de la colonisation en question. Il y a une première étape, c'est que à cette période-là, l'île de Mayotte était considérée comme étant un protectorat. Donc, sans transition, je vais venir à partir de quand on parle de la colonisation de l'ensemble de l'archipel. 1912, les Comores font partie de la colonie de Madagascar et Dépendance. D'accord. Donc, le narratif des séparatistes dits maorais, donc de l'île de Mayotte, ils disent: on a toujours, depuis 1841, grâce à ce réfugié Andjian Nansouli, on a toujours été français, et on est français avant la Savoie. Enfin, on trouve ça dans des textes. Et on n'a rien à voir avec les Comoriens. Donc, premier fait, Mayotte a à voir avec l'ensemble des autres îles, parce qu'en tant qu'archipel, là, du coup, le statut, c'est un statut de protectorat qui s'est étalé sur tout l'ensemble. Sans transition, 1946, les Comores jouissent d'une autonomie administrative, puisque le statut octroyé à l'époque, après 45, donc, c'est que c'est un territoire d'outre-mer. Un territoire d'outre-mer, ça veut dire que on a vocation, on n'est pas département d'outre-mer, donc on a vocation un jour à négocier son indépendance. Et tenez-vous bien, le territoire d'outre-mer de 1946 avait comme chef-lieu Dzaoudzi, qui est sur la petite île, ce qu'on appelle la petite terre, à Mayotte. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire, moi, je n'ai rien à voir avec les Comoriens, je ne sais pas d'où ils sortent, c'est juste des gens qui veulent me dominer, je vais les dégager. Parce que Darmanin va m'obéir au doigt et à l'œil. Donc sans transition, maintenant je vais passer à un certain nombre de paradoxes qui s'opèrent autour de l'année 1958. Le 14 mai 1958, l'Assemblée territoriale des Comores vote le transfert de la capitale de Dzaoudzi, donc de Mayotte, vers Moroni, la Grande Comore. Il faut savoir qu'avec le statut des territoires d'outre-mer, on a à cette période-là un élu d'une certaine circonscription et qui siège comme député au Parlement français. Il s'appelle Saïd Mohamed Cheikh. Et Saïd Mohamed Cheikh avait vocation à prendre le leadership sur la scène politique comorienne. Rappelez-vous, territoire d'outre-mer, on a vocation à évoluer vers l'indépendance. Alors, évoluer vers l'indépendance, s'il y a par exemple des Kanaks parmi nous ou qui s'intéressent à cette question, on le dit dans les textes, mais on va prendre tout son temps à changer, à modifier pas mal les accords pour faire gagner du temps au temps. Donc, cet acte a été traduit comme un acte d'humiliation, le fait que il y a quand même une assemblée territoriale qui vote. D'accord, on est une île, il y a trois autres îles, il y a des élus qui représentent, leur région de leurs îles, et donc la majorité a dit OK, pour différentes raisons, la capitale va être transférée donc sur l'île de la Grande Comore, donc la capitale actuelle qui est Moroni. Et donc c'est ce phénomène qui va être exploité pour on dit que c'est le début du séparatisme maoré parce que les tenants de l'ancrage de Mayotte à la France vont dire on n'est pas, le Maoré n'est pas en sécurité. Et si ces grands Comoriens, notamment, on se retrouve ensemble, on va toujours être lésés. Et donc, c'est ce qu'on développe jusqu'au maintenant. Dans l'esprit, c'est cela, en fait. Et en 58 également, il y a eu le référendum sur la nouvelle constitution française, qui permettait, en fait, on s'est adressé aux régions qui étaient sous occupation française de choisir si oui ou non ils veulent évoluer vers l'indépendance. Et je dirais que, comme la majorité à l'époque, les Comores ont choisi de garder le statu quo. Donc jusque-là, il n'y a pas de grand tiraillement. C'est vraiment un phénomène interne qui a été exploité et vraiment exagéré. De novembre 1958, il y a eu ce qu'on appelle le congrès de notables dans une ville qui s'appelle Tsundzou et c'est à Mayotte. L'origine, c'est un certain Georges Naouda, qui est d'une famille créole d'origine de la Sainte-Marie. La Sainte-Marie, c'est des îles au large de Madagascar. En 1958, rappelez-vous, l'indépendance de Madagascar, c'est 1960. Et donc, Naouda se dit, oui, mes privilèges en tant que Français, je vais les perdre. Et c'est ce qui s'est produit, d'ailleurs, puisque l'île de Sainte-Marie à l'indépendance, a pris l'option de rejoindre la Grande Île. Et donc, Georges Naouda, il débarque à Mayotte et il mène campagne auprès des notables, les personnalités influentes, pour dire, attention, je veux vous donner une idée, il faut demander la départementalisation de cette île. Ouais, donc, quand on a un Sarkozy en 2009 dit oui, pour des raisons de promesses politiques, j'invente le statut de départementalisation, même s'il avait monté des personnes pour aller dans ce sens-là, ça date quand même de il y a longtemps, et c'est à partir de vraiment de questions purement internes. Donc, Georges Naouda, qui est même pas une minorité sociale sur cette île, a réussi à soudoyer des gens, faire un congrès pour dire, nous, on veut aller vers la départementalisation parce que on n'est pas en sécurité avec les autres îles. Et donc, effectivement, quand en 1960, Madagascar a accédé à l'indépendance, là, il y a eu une coïncidence historique à cette période. C'est l'année pratiquement du décès de Georges Naouda. Et là, il y a des personnalités qui ont occupé la scène un peu plus longuement, qui ont pris le relais sur ce seul narratif. On ne peut pas se mettre avec les autres parce que on risque d'être lésé. Et en 1965 seulement, le transfert a eu lieu et il y a une personnalité qu'on appelle Marcel Henry qui a pris le relais donc de Georges Naouda. Il se trouve qu'en 1963, Youssouf Sabil, qui est leader donc du mouvement qui est devenu le mouvement maoré, lui il est député de la partie autonome. Lui, il a gagné les élections contre Marcel Henry sur la base qu'il faut accorder à Mayotte le maximum d'autonomie. Donc là, lui, il n'est pas en train de dire je mobilise la population pour être coupé complètement. Il était même pour l'indépendance à cette période-là. Donc là, je vais faire un grand bond pour arriver à la période de l'indépendance. C'est le 15 juin 1973. Il y a eu des accords signés à l'époque par le chef de gouvernement, Ahmed Abdallah, et c'était Bernard Stasi, ministre d'Outre-mer. L'accord qui a été signé, c'est que on va procéder à ce que ça s'appelle une consultation. On va procéder à une consultation des îles. Et la question qui était posée, donc cette consultation a eu lieu en 1974, le 22 décembre. La question qui a été posée, c'est souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant? Et donc, on a épluché les votes et 95,4% répondent oui. Donc, c'est massif. Je fais un petit clin d'œil tout à l'heure. C'est une période où, dans les années à partir de 68 et 70, on dit que l'indépendance vient de deux phénomènes. Un premier phénomène, c'est des indépendantistes qui aidaient sur l'île voisine à Zanzibar, aidés par le régime de Nyerere, un panafricaniste. Et donc, ils ont eu une grande influence, ils sont venus avec le projet, mais rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais dit que les votes qu'on avait donnés, c'était le consensus, le statu quo. Et les leaders politiques étaient sur ce statu quo. Et donc, l'indépendance, on va dire qu'on a évolué dans ce sens-là, grâce aux faits militants, de militants donc qui étaient dans la diaspora d'une part, et d'autre part, il y a eu en 1968, c'était en avril 68, il y a eu la grève des lycéens qui a fait que les rapports avec le colonialiste étaient beaucoup, on va dire, impactés. Et dans ce vote, seulement 12% de les seulement Mayotte a voté à 65% non, sauf que Mayotte représentait seulement 12%. Donc, il y a quelque chose que je pourrais dire un mot dans quelques instants, c'est que même ces 65% qui ont dit non à l'indépendance, c'était toute une construction. On parlait de milices tout à l'heure. Il y a eu ce qu'on appelait les milices, les Soroda. Ça veut dire qu'on a armé des gens, ils allaient dans les familles, ils chassaient tout ce qui était suspecté d'être indépendantiste. Quand on les trouvait, on les déportait à l'île voisine. Et malgré tout, il y a eu quand même eu des gens qui ont voté pour l'indépendance à Mayotte. Et ces gens-là sont encore là aujourd'hui et ils témoignent. On les a parqués dans le Nord et évidemment, ils subissent beaucoup de sévices. Et c'est le 3 juin 1975 que la proclamation unilatérale de l'indépendance a été faite. Non, c'est le 6 juillet. Pourquoi ? Parce que le 3 juillet, il y a eu, une fois que les votes ont été faits, il y a eu un projet de loi pour dire maintenant on va décompter les voix et considérer que si une île a voté non, eh ben c'est seulement les autres îles qui seront indépendantes. Et c'est la raison pour laquelle Ahmed Abdallah, chef de gouvernement de l'époque, qui a été suivi par tous les autres partis, ont fait la déclaration unilatérale de l'indépendance. Et donc, il semblerait que c'est une deuxième raison de l'occupation forcenée de Mayotte pour punir des gens qui ont osé faire une proclamation unilatérale. Bon, et la classe politique française a été plus que divisée. En 75, le président c'était Valéry Giscard d'Estaing, pour ne citer que lui. Dans une conférence du 24 octobre 74. Donc, juste avant les élections, il a donné sa position, qui était une position quand même officielle. Je le cite, « Nous ne pouvons pas, à l'occasion de l'indépendance d'un territoire, à proposer de briser l'unité de ce qui a toujours été l'unique archipel des Comores. » Donc, moi, je ne le dirais pas mieux en tant qu'indépendantiste. Voilà. Après, il y a à décrypter comment est-ce que on a réussi ce coup de force quand même. Alors, il y a eu l'État, mais il y a ce qui se passait en interne. On va juste regarder ce qui se passait au niveau de l'État français. 12 novembre 1975, il y a eu un petit changement, c'est que le Ahmed Abdallah, que j'ai cité tout à l'heure, il y a eu un coup d'État et un certain Ali Swali. Ali Swali qui prenait un régime socialiste, en tout cas lui c'était un souverainiste, eh ben il a pu faire admettre à l'ONU les Comores comme pays indépendant, et nous brandissons régulièrement la fameuse résolution 33-85-30 du 12 novembre 1975 qui réaffirme la nécessité de respecter l'unité de et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores, composé des îles d'Anjouan, de la Grande Comore, de Mayotte et de Moëlie. Et la suite de ce décret dit « Et tout référendum qui sera exécuté sur Mayotte et sera considéré, au vu du droit international, comme étant nul et non avenu. » Ce qui n'a pas empêché le coup de force de l'État français d'aller de faire le référendum de 1976. Je vais le développer dans mon deuxième point. Ça fait partie de la méthode de séparation qui a été faite. Je dirais un petit mot quand même sur l'état de pourrissement qui a impacté la partie indépendante par la France-Afrique et par la volonté coloniale in fine. 1978, le régime de Ali Swali, qui était quand même un président souverainiste qui a développé, sous influence de Nyerere, donc là, on a quelqu'un qui a lancer un développement endogène. Et ce qu'il a accompli en peu de temps, on en voit les traces jusqu'à maintenant. Il a fait rentrer les Chinois qui ont commencé à faire des infrastructures, etc. Eh ben, 78, il a été renversé par Bob Denard, qui reste 10 ans. À 10 ans sous régime mercenaire, vous pouvez, il n'y a pas de dessin. L'idée ici, c'est que les Maorais, on accepte de vous protéger, et surtout ne vous avisez pas à aller de l'autre côté parce que vous voyez le pourrissement, l'état de pourrissement, d'appauvrissement que ça représente. Et l'un des faits importants, c'est quand même, vous en avez entendu parler, 1995, c'est la fin de la circulation libre entre les îles. Parce que jusque-là, ben, on est cet archipel, l'administration par la France de l'île de Mayotte, ça n'a pas changé grand-chose, hein, mais je pense que je m'étalerai pas là-dessus. Il y a quand même deux ou trois familles qui représentent une petite bourgeoisie locale. Tout le reste, il y a 77% sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. C'est les chiffres de l'INSEE. D'accord. Donc à l'époque, ils étaient pas mieux. Et donc c'est pas vraiment pour un meilleur vivre, ils l'ont pas eu, c'est juste un mauvais gag. Et donc c'est une fabrication politique. En 1995, on instaure donc le visa baladure. Je signalerai que c'est instauré par, on appelle ça visa baladure Pasqua, qui dit tout ressortissant des autres îles, vous devez prendre un visa pour venir rendre visite à vos proches à Mayotte. Ça s'est soldé aujourd'hui par, on compte plus de 30 000 morts parce que personne n'a ce visa. Enfin, si on a ce visa, c'est même suspect. Et les gens, ils veulent quand même aller à Mayotte. Et vous avez entendu parler des Kwasa Kwasa et de ce mot d'esprit de Macron. Qui disait oui, on pêche pas beaucoup, le Kwasa Kwasa pêche pas, mais ramène du Comorien, enfin ceux qui survivent quoi. Voilà. C'est, ouais. On a fait une grève importante. Donc ouais, c'est une fabrication en fait complètement politique en fait. Pour ceux qui veulent des détails, il y a Rémi Cayrol qui a fait un beau papier dans Le Monde. Il l'a repris récemment à l'occasion de Wambushu. Et il a travaillé aussi, il a cité aussi des passages de Mamaï Idriss, la fille de Idriss, qui Idriss est le monsieur qui devait être ici à ma place, mais il a dû voyager. Et sa fille a fait une thèse sur ce qu'on appelle le mouvement maoré. Et donc là, on a vraiment les détails. Ça peut être long. Je nous souhaite qu'un jour, elle fasse un focus là-dessus. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais expliquer. C'est que depuis, l'île de Mayotte, en fait, est devenue alors... On est passé à la départementalisation avec Sarkozy de 2009 à 2011. Et déjà, Sarkozy a fait sa politique de chiffres en tant que ministre de l'Intérieur. Et il faut savoir que ça permet de faire des expulsions donc de ces Comoriens qui n'acceptent pas, qui passent à travers les mailles du filet. Et donc, régulièrement, on fait des expulsions. Sans transition, je vais parler aussi de l'opération Wambushu. Darmanin s'est dit il y a trois objectifs. Le premier, c'est les expulsions massives. Et les expulsions massives, c'est une expérimentation donc de la loi de migration là qui reste encore bloquée. Et il s'est proposé de faire l'opération Wambushu en 2 mois, en expulsant 20 000 personnes. 20 000 personnes, ça représente exactement 10% de la population totale de l'île, sachant qu'il s'est vanté que l'année d'avant, il en avait expulsé 23 000. Donc en 2 mois, il va rattraper. Enfin bon, on est dans un délire sans nom. On l'a dit, là, on a de l'extrême droite sans complexe en fait. Et la deuxième chose, c'est lutter contre la délinquance. Lorsque on a introduit le visa baladure, il y avait des jeunes qui jouaient, qui faisaient des petits, qui vivaient de petits commerces entre les îles. Et puis on leur dit, vous n'avez plus le droit de revenir ici. Et ils disent, nous on y est, on va y rester. Hein. Et donc ils ont construit des bidonvilles. Et c'est des adultes d'aujourd'hui qui vivent dans les bidonvilles. D'accord. Donc ils disent, on va lutter contre l'insalubrité. Et l'insalubrité, ils l'ont quand même vu venir. Hein. Il y avait quand même plus de 20 sites qu'on veut raser maintenant. Et les gens qui vivent, c'est des gens qui sont... c'est la clandestinité qu'on a créée. Et d'ailleurs, il y a une instrumentalisation de la petite classe politique dominante là-bas, de dire, voyez la France, on n'a pas assez d'aide là, regardez les bidonvilles, c'est désordre, on est en France quand même. Ah, donc comme ça, on rallonge de 10%, voilà, qui est mal géré, il faut le reconnaître. Et la troisième, c'est pour ça que j'ai parlé des enfants, c'est lutter contre la délinquance. Et donc, lorsque vous prenez des enfants, et vous leur dites, vous n'avez aucun droit ici, et qui vivent dans la nature et qui sont plaqués dans les bidonvilles, ils n'ont pas de formation, ils vont pas à l'école, ils ont encore moins de formation professionnelle, donc ils n'ont pas de boulot et ceux-là, on est étonné qu'ils soient délinquants. Il y a encore d'autres choses là-dedans parce que on était impliqué dans ce phénomène-là. De par son caractère massif, on voit même dans les reportages, hein, puisqu'on peut décrypter, on a vu des enfants habillés en blanc qui partent dans les bidonvilles pour aider les gens, et on a vu, ils les ont filmés, ils vont à l'hôpital et puis ils chassent des gens. Les gens qu'ils chassent, c'est ce qu'on appelle des milices. Et en particulier, on a mobilisé des femmes qu'on appelle les femmes leaders, qui vont investir les centres hospitaliers pour dire il est hors de question que vous continuiez à soigner les autres là-bas qui viennent, les Comoriens. Voilà. Et donc, ces jeunes-là, ils viennent, qu'on traite de délinquants, et que là, vraiment, c'était les CRS, tout ça, qui sont allés là-bas. On voit une course poursuite vis-à-vis de ces jeunes. Et donc, il faut voir, c'est des gens qui se donnent des moyens de subsistance, mais en même temps, ils font des actions comme je viens de citer. Donc, j'ai envie de vous interroger pour le fan, de quel côté s'exprime la délinquance. De ce point de vue-là, eux, ils sont chez eux. On leur a quand même bousillé la vie, faut le dire. Et c'est eux qu'on accuse et qui servent de bouc émissaire dans un système que l'on fait pourrir. Hein. Bon, j'ai abordé ça. Je sais pas si j'ai encore un peu de temps. Un petit peu de temps, ok. Donc, c'était le plus long. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé sur ça. L'idée ici, c'est que on voit à travers le temps que rien ne prédisposait à ce que l'île de Mayotte, il y ait des gens qui sortent dans la rue pour dire « Ah ouais, on veut rester français parce que on aura un meilleur vivre ». Mais c'est vraiment, il y a des circonstances et ça se jouait à une petite chose. Raison pour laquelle moi, je suis en tant que CEDISCO, on est à l'extérieur. Ça fait 25 ans, on martèle. Et on nous a compris dans le temps. Et c'est comme ça qu'on va mieux s'en sortir. Je voudrais vous exposer le phénomène de la fabrication du narratif pour faire perdurer un fait colonial. Et le concept s'appelle la maillotisation. La maillotisation, en fait, c'est le concept que, en 1960, Alain Perfit avait écrit un livre « Faut-il partager l'Algérie ?» Et ce qui était prévu, effectivement, puisque et le mouvement indépendantiste d'Algérie, on a compris qu'ils sont vont devenir forts. On a prévu quand même d'aller à des négociations pour dire dans le sud où il y a le pétrole qui nous intéresse, il faut trouver le moyen de partitionner. Ça a échoué. Mais le concept existe et on l'a vu apparaître à différents endroits. Sous contrôle français ou sous la néocolonisation. Alors, comment ça s'opère ? Ça s'opère en deux temps. Le premier temps, on agit sur le peuple. Vous voyez le phénomène, on fabrique des milices, on nourrit un narratif pour manipuler les gens. Et on dit, l'idée ici, c'est de dire qu'un peuple va se distinguer, en fait, une population va se distinguer du reste de la population sur un récit qui, généralement, ne tient pas debout. Et donc, pour agir sur le peuple et l'isoler, on va procéder par des transferts de population, afin de faire obstacle aux revendications indépendantistes. Et c'est ce qui s'est fait exactement avec, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai parlé des serrer la main. Donc, les serrer la main, on va les chasser. Et puis, on va ramener que des gens qui vont être pour le projet d'occupation. L'autre point, c'est que on continue à alimenter un récit de la méthode divisée pour régner, manipulation sur l'histoire, donc voire même guerre psychologique. Voilà, par exemple à Mayotte, on expliquait aux gens que il faut se définir français, sinon on ne mérite pas de rester sur le territoire. D'où la haine du Comorien. On a des cas rocambolesques, hein, c'est que là, à la Sous d'Armanet, par exemple, y a des jeunes qui ont vu que leur cousin, on le sort du lycée et on l'envoie de l'autre côté. Et donc, on l'a interviewé, le jeune là qui s'en plaint, il dit, mais j'y crois pas, quoi. Et il dit, oui, mais ici, si on est suspecté de protéger un clandestin, on est passible d'amende, ils sont pas très riches, hein. Et surtout, on est sévi. Les milices dont je vous ai parlé vont sévir sur les gens. Donc, c'est vraiment un phénomène de terreur. Donc, ça permet d'agir sur le peuple. Donc, une fois qu'on a obtenu ça, on va trouver un groupe qu'on transforme ce groupe majoritaire. Voilà ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça que ce groupe on a fabriqué cette majorité et ils vont occuper un espace et on dit cet espace il est à vous et nous, le colon, on est là pour vous protéger. Voilà, donc la sécession de Mayotte s'est produite ainsi. Grâce aux Soroda et aux Chatouilleuses, aujourd'hui on a les milices, ils s'appellent les collectifs villageois. Les collectifs villageois, vous avez peut-être vu dans la presse, phénomène de décasage, parce qu'il faut quand même amortir. Il faut pas dire aux gens, on est allé dans les papiers des populaires où les gens sont démunis, et puis on leur dit, sortez, partez de l'autre côté. On dit décasage, ça veut dire c'est des cases, ça gâche le paysage, donc on veut les enlever, et vous, vous dégagez de là. Donc, et là, on a fabriqué ce qu'on appelle les comités villageois, donc des milices. Eux, ils faisaient un tract, et ils prévenaient que la semaine prochaine, à telle date, on ira raser ce quartier-là. Donc, comme ça, la majorité va fuir. il faut un tract sous administration française où l'administration est censée veiller sur la sécurité des gens. Et donc, au moment où ils sont à l'œuvre, la PAF est là pour les protéger, pour qu'ils finissent leur boulot. Et puis, ils rentrent dans le frigo, ils prennent ce qu'ils trouvent. Voilà. Donc, c'est ce visage hideux qu'il y a aujourd'hui dans la départementalisation. Donc, avec les amis Kanak avec qui on avait travaillé, on a alerté sur ce phénomène-là, sur l'indépendance. Et personnellement, j'ai été à une conférence où j'entends Michel Rocard dire « Ok, vous êtes capable, ok, d'accord, vous êtes capable d'avoir votre monnaie parce que on a voulu leur vendre le fameux franc CFA, le même mécanisme. C'est quand même un peu tard à cette période-là. D'accord, vous pouvez avoir votre monnaie. D'accord, vous pouvez avoir des types de coopération pour la défense. Donc c'est le deuxième point. Mais il y a un troisième point qui est le droit positif dans le triangle de souveraineté. Et donc, s'il y a la justice, et il dit oui, mais dans la justice, les gens du Nord, vous n'êtes pas pareil que les gens du Sud, et on va, enfin, et donc ça va pas marcher. Et donc on entend, on va s'en occuper, on va monter les gens du Sud parce que c'est le Sud où il y a les minerais qui nous intéressent, et donc c'est la partition, d'accord. Donc ça s'appelle la maillotisation. Pourquoi? Parce que c'est une méthode institutionnelle maintenant de séparation, de séparer une partie d'un territoire. Il y a eu, lorsqu'on parle de partition du Mali à l'époque, rappelez-vous la Zawad dans le nord, le projet à peine caché, c'était celui-là. C'est que les minerais sont là, on a du mal à maîtriser tout ce monde-là, et donc la junte au pouvoir maintenant, ils le savent parce qu'ils se battent dessus depuis longtemps. Et jusque maintenant, on brandit la Zawad parce qu'on veut manipuler, parce que ça serait pas mal qu'ils restent avec leur souveraineté là-bas, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les minerais. Et le tout, c'est de séparer le Nord. Donc, on a voulu l'appliquer. Espérons que ça ait joué. Pareil aussi au Congo, là, à une période, avec la province du Katanga. Katanga, il y a de l'or, il y a ce qu'il faut, et on a fait sortir. Mais de manière générale, en fait, sans transition, aujourd'hui, parmi les enjeux aux Comores, il y a des énergies fossiles qui vont, enfin, on va les exploiter, hein, mais ça a déjà commencé au Mozambique, à Dar es Salaam. Et très curieusement, il y a des djihadistes dans le coin, forcément, d'accord. Et la STL Soufa qui, je ne sais pas comment on lui télécharge ce qu'il y a à dire, hein, de ne pas prendre le temps d'analyser, dans une interview, je me rappelle pas le chemin, m'a envoyé. Bon, au hasard, c'est BFM TV. Et elle dit, j'en appelle à l'Europe, qui doivent nous mettre un pavillon au large de Mayotte, elle dit, parce que c'est pas dire Comores en fait, au large de Mayotte. Parce qu'on va bientôt explorer du pétrole et du gaz dont l'Europe a besoin. Et ce pavillon devra être là pour protéger Mayotte des invasions. Donc elle s'est pas aperçue qu'elle vendait la mèche, quoi. Et l'opération de Darmanin, donc là, j'arrive sur ce point-là aussi, c'est de dire que on peut se poser la question. Vous prenez des individus, et d'ailleurs, on l'a vu même dans les reportages qu'ils font. On a vu une dame qui a pété les plombs et qui a failli taper sur le préfet. Et a dit, mais moi je suis mahoraise, j'habite là avec mes voisins. Vous aviez dit que vous vous attaquez qu'aux étrangers. Et vous êtes en train de détruire, en plus, c'est un petit immeuble en dur. Donc elle a pété les plombs, elle dit, bah oui, mais c'était dans la liste, donc voilà. Et donc, la question qu'on peut se poser, vous avez vu ça il y a un bon bout de temps, là, ces bidonvilles qui ont germé, là. Et vous décidez maintenant, vous faites le nettoyage. Et vous débarrassez les individus. Ces individus, qu'est-ce que vous en faites? C'est pas votre souci, ok? Mais cet espace que vous récupérez, vous allez en faire quoi? Parce que, par exemple, cette dame qui dit oui, mais il fallait juste pas toucher. Moi, je demande pas à y reloger. En fait, l'une des aberrations, c'est que il commence par sortir les gens et puis il regarde les papiers. Ok, tes papiers, t'as pas renouvelé ta carte de séjour et donc tu pars en juin. Ah oui, toi tu es en règle, donc on va te loger, mais on a vérifié, il reloge pas. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a eu des procès et le préfet était obligé de sortir des décrets pour ralentir. Le fait de raser les bidonvilles parce que ils n'ont pas montré les garanties. De toute façon, les garanties, c'est juste hors programme, quoi. Donc, peut-être je dis quelques mots sur les enjeux qu'il y a. Donc, on peut voir ça en deux temps. Dans un premier temps, nous, quand on se posait des questions, mais pourquoi est-ce qu'un État, une superpuissance, contre le droit international, va occuper un espace dont, nous on savait, hein, dont il ne va pas véritablement faire du développement. Ce n'est pas le but d'une colonisation. Donc il y a quelques enjeux qui se jouent. Alors à l'époque, on nous disait, oui, mais c'est pour contrôler la circulation maritime dans le canal de Mozambique. Parce que c'est là qu'ils passent, je crois que 3/4 des bateaux, des pétroliers, pour voilà. Et donc c'est pour avoir le contrôle, ok. Mais vous pouvez le faire de la Réunion puisque le statut vous permet de le faire au niveau international. Donc ça tient pas la route. Dit, on a mis des centrales d'écoute. Les centrales d'écoute, c'est dû au fait que la marine française était à Diego Suarez. Et quand on a dégagé le France-Africain Ntsiranana, c'est lui qui est venu, il a dit « Ok, je romps les relations ». Et donc, sur la petite terre, ils ont installé en fait des centrales d'écoute. Oui, c'est un enjeu stratégique majeur, parce que de là, on peut écouter et l'Asie et l'Afrique. Ok, mais ça n'explique pas pourquoi vous l'avez planté sur l'île de Mayotte. Et puis, il y a la sécurisation du canal de Mozambique via la Fazoï, tout ça, là, pour protéger les flottes européennes, les quelques-unes qui passent là. Il y en a qui font de la pêche sauvage là-bas, donc il faut bien une présence militaire. Mais c'est toujours pareil, les Fazoï, ils sont majoritairement installés sur l'île de la Réunion. Et donc, bon, maintenant ils se disent, on peut récupérer de l'espace à Mayotte, mais ça ne juge, enfin, on comprend pas comment un État aujourd'hui s'attire la foudre de tout le monde libre à par une occupation illégale par la force d'un espace où il a zéro argument. Juste parce que on veut contrôler la circulation maritime. Donc les enjeux géostratégiques ne tiennent pas beaucoup la route. Et d'ailleurs à ce propos, je vous signale, peut-être certains d'entre vous ont appris en juillet 2023 les médias mainstream là qui sont très émus par la présence dans l'océan Indien de navires de la puissance Chine autour des îles éparses, lesquelles îles éparses sont revendiquées par Madagascar, par le chef de l'État actuel d'ailleurs. C'est quoi le statut des îles éparses? À l'époque, ok, ça marche. À l'époque, On s'est posé la question pourquoi De Gaulle garde les îles éparses, ne laisse pas, n'abandonne pas les îles éparses à l'époque, alors qu'il s'y passe rien. Et donc, en fait, on a toujours su que au large de l'océan Indien en général, des îles éparses en particulier, il y a du pétrole à explorer en offshore. Et donc, c'est ce qu'on dit d'ailleurs que le grand capital, dans sa grande clairvoyance, qui est là pour protéger les intérêts de son peuple, va occuper des espaces pour explorer à bas prix le pétrole, le gaz, etc. Mais des fois, il les garde en réserve. Donc, il définit une zone. Mais je dirais que ça, c'est les questions géostratégiques pouvaient être résolues politiquement, ça ne tient pas la route. Il y a des raisons beaucoup plus fortes, c'est là que j'accélérais, sur les enjeux économiques. La présence d'énergie fossile en offshore, comme je voulais préciser, le fait que dans les régions des TAF, on explore des richesses identifiées. On fait des recherches sous-marines. La biodiversité, c'est tout un programme. C'est quand même l'économie de demain. Et donc ça, on pouvait le voir. Ça, on comprend. La France s'est invitée dans ce qu'on appelle la commission de l'océan Indien. C'est quand même une position géopolitique de prestige. Et surtout, il y a les zones d'exclusion économique, c'est ça ? Exclusive, des 11 000 km² où on ne veut pas du tout diminuer, parce que grâce à ça, la France occupe la position de deuxième, je crois, après les États-Unis. Et sans ça, en fait, c'est la dégringolade. Donc, ok, des raisons de prestige, il y a aussi la dimension néocoloniale qui est omniprésente partout. Il y a ce qu'on appelle la France-Afrique. Puisque Bolloré exploite le port de Moroni, et aussi Mayotte a été choisie parce qu'il y a un port qu'on appelle la Longoni, un port en eau profonde, qui a été identifié déjà pour recevoir les bateaux à partir du moment où on a été chassé de Diego Suarez. Et donc, évidemment, un port en jeu économique majeur. C'est ce point-là le plus important. Et tous les chefs d'État, quand on a Sarkozy qui en 2011 était à la Réunion et dit OK, j'entends bien que les Maorais, même ici dans les départements, vous réclamez des droits. J'entends bien, on va voir ça. Il y a qu'une seule ligne rouge, c'est l'indépendance. Pareil, vous avez des phrases équivalentes de Mitterrand, qui a dit d'ailleurs, qui a dit de la Nouvelle-Calédonie, dit l'indépendance jamais, sinon la partition. Voilà, donc sinon c'est Mayotte, quoi. D'où la mayotisation. D'où la détermination forcenée de rester dans ces îles-là pour occuper un maximum de l'espace. Sauf que la chute ici, c'est que l'Afrique se libère. On a commencé à l'ouest, là. Et ça va évoluer vers l'est. Il y a eu un déplacement par la Macronie pour venir vers l'est parce que il y a eu des gros efforts de fait au Kenya. Shell, Total, tout ça, explore les énergies, les sources d'énergie de la Mozambique. Enfin, je finirai par mon président, Azali Assoumani, une caricature de la France-Afrique, qui a bloqué les contrats d'exploration parce qu'il veut absolument, par la force, le passer à Total. Et s'il le passe à Total, devinez quoi ? Les bidonvilles qu'on a rasés tout à l'heure, il va falloir mettre en place des sites attrayants pour les beaux yeux de la classe qui nous domine.